BFM Bourse, le club de la bourse.
Ce soir, il nous accompagne Kevin Tauzé, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonsoir Kevin.
Bonsoir Guillaume.
Dis bonsoir, faut que je reste. Bonjour, il fait beau, il y a beaucoup de lumière. Gabriel Caraboulade aussi est avec nous. Bonjour Gabriel.
Bonjour Guillaume.
Directeur adjoint des investissements de Neuflis OBC. On est ravis de vous retrouver. Messieurs, on va parler dans un instant de SKNX parce que c'est tout un symbole. Juste l'état des marchés. Gabriel, là, comment vous les sentez en ce début de deuxième semestre? On a les marchés européens un petit peu hésitants. En fait, tout le monde attend les publications, on imagine, qui vont démarrer la semaine prochaine. Quelle impulsion vous en attendez de ces publications?
Bon, c'est mardi avec les financières américaines, on aura une tendance relativement importante. On a des marchés qui restent plutôt résilients. Aujourd'hui, j'entendais le mot précédemment sur l'antenne. Ce qu'on va attendre, donc, c'est la croissance des bénéfices qui est attendue très élevée du côté des entreprises américaines. Il y a un risque de déception qui est assez significatif. Mais c'est pas notre inquiétude principale, c'est plutôt au deuxième semestre avec les midterms et la mise en place réellement de la politique monétaire du nouveau board de la Fed qu'on aura vraiment des surprises de ce côté-là et des risques de volatilité plus importants.
D'accord, on parlera des grands enjeux du deuxième semestre effectivement, mais du côté des publications donc, est-ce que le marché risque de davantage réagir aux déceptions que saluer les bonnes surprises? Parce que le marché a acheté beaucoup de bonnes nouvelles déjà, est-ce que du coup il y a plus un risque de vendre massivement tout ce qui déçoit et puis pas forcément applaudir ce qui s'y réussit?
C'est vrai, d'autant plus que l'environnement géopolitique, on l'a vu, il y a une petite désillusion sur les perspectives d'amélioration de la situation en Iran, avec, on le voit, un conflit qui va rester plutôt larvé et des escarmouches qui vont se multiplier du côté du Moyen-Orient et qui pourraient peser sur les flux d'approvisionnement et les filières commerciales, donc passant et concernant particulièrement l'Asie, donc des marchés qui sont susceptibles d'être davantage à fleur de peau et de réagir de façon plus importante aux publications à partir de la semaine prochaine.
Kevin, qu'est-ce que vous attendez de cette saison? Est-ce que le marché sera plus prompt à sanctionner les déceptions qu'à applaudir les réussites?
Oui, c'est sûr que on a le droit de se poser des questions sur comment est-ce que le marché va interpréter les saisons de résultats, parce qu'on sort quand même d'un trimestre qui était quoi, le meilleur depuis le Covid. Il y a tout à payer, tous les différents styles, les grandes capitalisations, les petites et moyennes capitalisations, la qualité, la croissance. Il n'y a que la value américaine qui a moins bien fait que le reste. Donc ça pose question. Ce trimestre record, il s'est fait aussi dans un contexte où on a des résultats records. Et ça, je crois que c'est aussi important de l'avoir. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est le jeu, mais la séquence usuelle sur les résultats, c'est plutôt qu'on a, en début de période, des attentes de résultats qui sont élevées, et puis un consensus qui, graduellement, révise ses perspectives de résultats à la baisse. Cette année, on a une table complètement renversée par rapport à ça, c'est-à-dire que les attentes de résultats n'ont cessé d'être revues à la hausse sur toute la séquence jusqu'à présent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut quand même dire, je crois, que les marchés sont peut-être dans un contexte un peu plus robuste, ils sont quand même plus davantage prêts, je crois, à avoir un deuxième semestre positif, en tout cas attaquer cette saison de résultats avec, on va dire, une bonne dynamique, d'autant que... On verra, on va dire, les chiffres que vous donniez, les 120% de croissance sur le trimestre par rapport au trimestre précédent.
Ah non, juste, on contextualise, dans le secteur de l'énergie, on attend 120% de hausse des bénéfices aux États-Unis. 120% du fait de la hausse des cours de l'énergie.
Dans les semi-conducteurs américains, c'est 130%.
Bon. De hausse des bénéfices attendus.
De hausse des bénéfices attendus sur le deuxième trimestre 2026 par rapport au deuxième trimestre 2025. Cette tendance-là, elle ne devrait pas durer qu'un seul trimestre. Ce sera également le cas au troisième trimestre, également le cas au quatrième trimestre, là où... il faudra faire un petit peu plus attention, je crois, c'est que quand on rentre dans 2027, même sur la fin de 2024, ces taux de croissance-là, ils seront pas aussi élevés. Parce que c'est pas tenable d'avoir, des tels taux de croissance. Et donc, c'est dans ces moments d'inflexion, je crois, qu'il faut faire un petit peu plus attention. En Europe, on a aussi une bonne saison de résultats qui nous attend. Alors, c'est pas aussi bien que les États-Unis, ça, on commence à s'y faire, de pas avoir des marchés qui sont aussi porteurs que les marchés américains, mais on attend quand même tout de même 12% de croissance des bénéfices sur le deuxième trimestre pour l'ensemble des marchés européens, ce qui est quand même plutôt un bon cru.
Oui, est-ce que le secteur qui a été le plus acheté avec enthousiasme, à savoir la tech, s'il venait à ne plus être acheté, voire à être sanctionné, est-ce que ce serait forcément une mauvaise nouvelle pour le S&P? Je vous pose la question parce que, par exemple, les 7 magnifiques font plus grand-chose, elles ont un taux de sous-valorisation, en tout cas de décote par rapport au reste du S&P, ce taux de décote a un peu 10 ans. Et pourtant, le S&P progresse. On se disait, sans les 7 magnifiques, désormais, vu la concentration, le S&P pourra plus progresser. Ouais. Il a besoin, le S&P, des 7 magnifiques. Là, on voit que même quand les 7 magnifiques classique sous-performe, le S&P lui parvient à s'affranchir.
C'est un très bon point que vous faites, Guillaume. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais dans ce trimestre record qui vient de se terminer, on a aujourd'hui plus de 30% des entreprises au sein du S&P 500, donc les grands indices d'action américains, qui sont sur des plus hauts. Donc cette hausse des marchés, elle a été beaucoup plus large qu'elle n'a pu l'être par le passé quand elle reposait notamment sur une poignée et demie et une poignée et demie de valeur. Donc c'est un premier point. Qu'on ait cette forme, ce qu'on appelle un élargissement des moteurs de performance sur les marchés d'actions, je crois que c'est déjà en train de se jouer. Il y a plus de bénéficiaires des investissements dans le secteur technologique que on pouvait le percevoir il y a quelques trimestres de ça. Ça c'est un premier point. Après, la hausse des marchés, elle a été quand même très portée par quelques valeurs. Et donc, ces quelques valeurs-là, si elles font du surplace, c'était quoi
longueur,
une forme de longueur sur ces grands acteurs, ces valeurs phares de la cote américaine, le marché américain devrait pouvoir continuer à monter. Si on a un vrai retournement sur ces valeurs-là, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué, étant donné la place qu'elles ont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends les 10 principales valeurs du S&P 500, ça doit être 45, voire 50% de la totalité du marché. Donc voilà, l'indice d'action américain, il est quand même tributaire de ces quelques valeurs-là. Ça, c'est un point. Et ensuite, s'il y a, on va dire, une forme de désengagement ou moins d'engouement sur certaines valeurs technologiques américaines, ça va bénéficier à d'autres sociétés, d'autres segments et d'autres marchés. Et je pense notamment à l'Europe. C'est-à-dire que c'est aussi un phénomène qu'on a vu cette année, c'est-à-dire qu'il y a eu un désengagement des investisseurs mondiaux, des actions européennes, pour aller investir sur le secteur tech américain. S'ils viennent se désengager un peu de ce secteur tech américain, ils iront chercher sans doute d'autres valeurs et peut-être qu'ils iront trouver en Europe.
Gabriel, vous pensez qu'effectivement cette saison de publication sera l'occasion d'un plus grand élargissement de la hausse des marchés, voilà, des performances qui peut-être de plus en plus iront profiter à des secteurs qui étaient en retard. Vous voyez venir ça, l'élargissement de la performance?
Je pense qu'on n'y est pas encore. C'est-à-dire que la tendance qu'on observe sur les flux de capitaux européens et en particulier les achats des valeurs technologiques américaines et les tendances qu'on observe également sur les marchés américains, je pense que cette tendance devrait se poursuivre sur au moins 2 à 3 trimestres, donc avec des valeurs technologiques qui restent les stars des indices. Ce qui pourrait venir enrayer cette dynamique-là, c'est plutôt du côté de la Fed, je pense, où là, si on avait de mauvaises surprises sur les hausses de taux ou des anticipations d'inflation qui s'emballaient, avec notamment une poursuite des tensions au Moyen-Orient, effectivement, ça pourrait venir mettre un grain de sable, mais sans ça, et c'est pas notre scénario principal, sans ça, ça restera donc les valeurs technologiques qui resteront donc les stars du marché et qui continueront de capter ce qu'on a pu voir avec SKNX récemment ou avec SpaceX au mois de juin, c'est-à-dire des montants records et une poursuite de la tendance sur le secteur. Du côté de l'Europe, malheureusement, je pense que l'amélioration n'est pas à attendre immédiatement, que ce soit du côté de la santé, de la technologie, de la défense, on en a parlé plus tôt cette semaine, donc on a de belles perspectives mais qui ne se concrétiseront du fait justement de l'inertie qu'on a au niveau des institutions et du politique européen que plus tard.
Oui, alors vous citiez SKNX, c'est intéressant parce qu'on disait bon, il y a peut-être un peu moins d'appétit désormais sur ces acteurs qui ont cartonné, carte mémoire, semi-conducteur, on a vu des signes d'hésitation depuis 2 semaines sur ces segments. Et donc, SKNX qui s'introduit à Wall Street, c'était un baromètre. Ça fait valeur de test quand même. C'est la plus grosse introduction en bourse d'un groupe étranger jamais vu à Wall Street. On attend toujours le prix en direct là, de SKNX parce qu'il y a beaucoup de carnets d'ordre à l'achat et à la vente qu'il va falloir très très vite déboucler. Pour l'instant, c'est compliqué. IPO sur souscrite 7 fois. Ça veut dire que la demande, de toute façon, est toujours
200
là
milliards,
sur la thématique. Oui. 26 milliards et demi de levée d'argent. Ouais. Il lève 26 milliards et demi, c'est plus que les 25 milliards d'Alibaba en 2014.
Ouais, enfin, je veux dire, si j'étais un investisseur américain et que j'achetais que des actions cotées aux États-Unis, alors j'ai de la chance, j'habite en Europe et je peux investir un peu partout dans le monde, y compris en Corée. Mais si c'était le cas, quand on regarde, voilà, quel est son concurrent le plus proche aux États-Unis, c'est qui? C'est Micron. Là aussi, des trajectoires de performance qui sont absolument stratosphériques et qui se paye qui s'achète un multiple de valorisation qui est plus élevé que SKNX, alors que les deux bénéficient pleinement de ces milliers de milliards qui sont investis dans la construction de ces centres de données, de ces cartes graphiques. Et donc, c'est sans doute ça qui vient motiver une entreprise comme SKNX, puisque c'est une entreprise qui est quand même extrêmement rentable. Elle ne vient pas se coter aux États-Unis pour aller lever une trentaine de milliards pour aller les réinvestir. Mmh. C'est sans doute pour voir cette décote, cette forme de décote coréenne hein, qu'on peut voir sur... on le voit avec d'autres acteurs. Et donc, cette décote...
Tout le monde a une décote face à Wall Street, en fait. Donc,
ouais,
on vient
donc
chercher
essayer de voir cette décote se résorber un peu, et ce qui sera bien plus, on va dire, enrichissant pour une entreprise comme SKNX que d'aller lever 28 milliards.
Ouais, c'est que le début...
Elle génère quand même beaucoup de flux de trésorerie.
Ça va monter alors, ouais. Gabriel sur SKNX qui choisit Wall Street donc de s'introduire aussi à Wall Street pour, c'est vrai, élargir son horizon, accéder à de nouveaux investissements, de nouveaux financements, ils en ont besoin. Le marché coréen est un peu étroit pour eux. Marchera.
Tout à fait. Et les capex dans les semi-conducteurs sont absolument gigantesques pour les années à venir. On a des shortages de production, donc que ce soit sur la mémoire vive, on en a parlé sur le stockage. On peut citer des entreprises comme Marvel également qui bénéficient donc de cette tendance. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le secteur. C'en est une mauvaise pour la diversification du S&P 500 et des autres indices. C'en est également une mauvaise pour d'autres secteurs. Je pense à la santé en particulier, qui bénéficierait bien de ces afflux de capitaux.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il va aller à encore une entreprise qui va aspirer les capitaux au détriment d'autres.
Il y a peut-être un autre bénéficiaire, c'est le won coréen. C'est-à-dire que...
Alors la même, devise coréenne.
Ouais, alors même que l'économie coréenne, elle est en train de réaccélérer. Des taux de croissance économique supérieurs à 2%, on a des taux de banque centrale aussi, une banque centrale qui est en train de mettre un tour de vis, une économie coréenne qui boom, hein, des marchés d'actions qui sont littéralement en feu. En dépit de ça, et ben on a une dépréciation du won coréen. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup d'investisseurs internationaux comme nous-mêmes, quand on va acheter des entreprises comme SKNX, quand on a des cours de bourse qui s'apprécient de 10, 20, 30, 40, 50, 100%, qu'est-ce qu'on fait ? Ben soit on écrète ces positions-là, soit on va couvrir le risque de change, et ça vient amener une pression baissière sur la devise. Et avec un instrument de cotation aux États-Unis, donc libellé en dollars américains, ça va possiblement, on va dire, réallouer une partie des flux, et donc on aura moins ces mouvements auto-entretenus qui viennent appuyer sur le won coréen. Donc lui pourrait en bénéficier in fine, ça pourrait venir, on va dire, infléchir cette dynamique qui est très technique ou propre aux flux de capitaux liés à l'engouement du secteur technologique, les investisseurs internationaux pour le secteur technologique coréen, et qui viennent se mettre un peu en face des fondamentaux de l'économie coréenne qui irait plutôt dans le sens d'une devise qui s'apprécie.
Mmh. Bon, c'est passionnant, effectivement, tant de choses en jeu en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut choisir ? Les publications en Europe, là, on se dit il y a quand même moins d'attentes, donc peut-être moins de risques que des déceptions soient sanctionnées. C'est-à-dire qu'on va choisir dans les choix stratégiques plutôt le moindre risque ou prendre le pari du risque ?
Le risque de déception, quand on regarde les attendus aujourd'hui, semble plus faible en Europe qu'aux États-Unis.
Voilà.
Assez clairement. On va regarder, bien sûr, ASML, toujours sur la tech européenne et les carnets de commandes. Mais là encore, c'est pour avoir une vision plus large sur les semi-conducteurs en Asie et aux États-Unis. Donc, sur la partie européenne, on fait le pari et on peut parier derrière. On peut parler de nos secteurs favoris pour le deuxième semestre, mais on a des secteurs comme l'industrie et le et la santé européenne, donc sur lesquels on attend de belles choses.
Alors,
on pense être agréablement surpris, en tout cas sur les résultats.
Voilà, on peut rentrer dans le détail. Pourquoi l'industrie ?
Donc, du côté de l'industrie, c'est d'une part pour la valorisation, c'est un peu l'éternelle question sur l'Europe, mais on pense qu'aujourd'hui, il y a une possibilité donc d'amélioration des multiples sur l'industrie qui est assez clairement positive, bénéficiant et des plans type Draghi, de l'investissement, des investissements de souveraineté en Europe, des revalorisations et des investissements plus nationaux, je pense à l'Allemagne, évidemment. Et sur la partie santé, là, c'est plus un effet Trump qui est passé, un effet tarif qui devrait, et qui est pour nous plutôt surpricé par rapport aux dernières discussions qu'on a eues sur le prix des médicaments et sur l'alignement des États-Unis sur le plus bas prix de médicaments, qui est souvent le prix européen d'ailleurs, ou même le prix français en l'occurrence. Et donc là-dessus, c'est plutôt source de bonnes surprises, je pense, pour les annonces qu'on va avoir cette semaine et la prochaine.
Oui, donc la santé et l'industrie européenne, pourquoi pas mieux que Wall Street. En tout cas, dans vos arbitrages, vos choix allocataires, c'est plutôt là-dessus que vous avez envie de pousser le plus de feu, quoi.
C'est plutôt en relatif sur l'Europe. Ah, c'est des paris qui sont européens. À côté de ça, nous restons assez fortement exposés aux États-Unis et à la tech en particulier.
Ouais. Kevin, les choix stratégiques, là.
Sur l'industrie, on préfère regarder, on va dire, l'aérospatiale que la défense.
Et parce que dans l'industrie, vous incluiez la défense, j'imagine, Gabriel. Ouais. Il y avait aussi la défense.
Pour nous, la défense, enfin, voilà, je veux dire, les grands enjeux de dépenses, que ce soit voilà, les plans allemands ou voilà, ou Monsieur Macron qui, on va dire, petit à petit s'approche des quoi, les 3,5 de dépenses dans le secteur de la défense demandé par l'OTAN. Toute cette séquence-là, je crois qu'elle est relativement bien balisée par les investisseurs, mais le marché, il a couru plus vite que les résultats. C'est-à-dire que le narratif de marché, il était très vrai, où il s'est mis en place en début 2025. Et depuis, on voit le secteur de la défense qui fait un peu du surplace. Pourquoi ? Parce que la réalité économique d'une entreprise du secteur de la défense, c'est pas tout à fait la même que celle des marchés. C'est-à-dire que on a, bien, dans un premier temps, des annonces politiques, puis ensuite, il faut les mettre en place. Il y a des appels d'offres, il y a voilà, toute la séquence administrative qu'on peut connaître. Dans le même temps, on va dire, livrer des chars, des drones, des avions, des frégates, ça prend du temps. Et donc, entre le moment où la commande est passée et où, on va dire, le livrable est livré, ben, il se passe du temps. Et ces entreprises-là, elles sont plutôt payées, on va dire, en fin de contrat. Et donc, on peut avoir, on va dire, cette période un peu de flottement. C'est-à-dire que, voilà, si je prends les superstars allemandes, les Rheinmetall, par exemple, ben, ils ont, en 2025, dit que voilà, les perspectives de croissance des ventes allaient augmenter de 30% sur un horizon 4-5 ans. C'est sans doute très très vrai, sauf que bah, ça va plutôt arriver à la fin de la décennie que
oui, mais à un moment faut bien payer ça.
Ouais,
c'est déjà
donc,
payé.
Donc ça prend un temps. Oui, mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que on a aussi une séquence. C'était quoi semaine dernière ou semaine ou la semaine d'avant, on a eu par exemple des contrats pour un achat de frégate
qui a été
annulé, alors même qu'il y a une volonté très forte des autorités allemandes et européennes globalement d'aller investir dans le secteur. Donc, même dans ce contexte-là, on n'est pas à l'abri que bien, ça ne se passe pas exactement comme attendu. Et quand, là aussi, je parle de Rheinmetall, mais ça peut être vrai pour d'autres, quand on a un acteur comme Rheinmetall qui s'échange en début d'année à 37 fois les résultats de 2026, il n'y a pas beaucoup de place pour la déception.
Et là-dessus, j'ajouterai un point pardon, sur le... Qui fait qu'on reste positif sur cet aspect de l'industrie lié à la défense, c'est qu'effectivement on a eu un aspect tactique avec la fin des hostilités, on le voit, s'en est loin, en Iran, qui a pesé sur le secteur globalement de la défense. Pour autant, la tendance de fond, donc qui est l'investissement national des pays européens, donc les investissements nationaux dans la défense, celui-là est toujours là, et on voit. On parlait du contrat de Rheinmetall qui a été pas du Rheinmetall pardon de Damen qui a été annulé donc sur les frégates. On a eu l'annonce aujourd'hui qu'il est remplacé par un contrat de plus de 3 milliards d'euros pour 4 frégates. C'est un prix qui est absolument délirant quand on regarde les prix de ce qui s'est fait dans le reste de l'Europe, aux États-Unis ou en Corée. Et donc, ça signifie une chose, c'est que les pouvoirs publics sont toujours prêts à subventionner leurs industriels pour pouvoir leur donner plus de puissance dans les années à venir. C'est ce qui nous fait dire qu'il y a une marge de progression encore sur les valorisations.
Oui, mais il y a aussi des concurrents qu'on ne va pas forcément venir. Alors que l'OTAN s'est réuni en sommet en début de semaine, Kevin, vous avez repéré justement le poids croissant d'un pays dans ce segment de la défense, c'est la Turquie.
Oui, c'est la Turquie, les exportations d'armes en Turquie sur la période 2021-2025, c'est plus 122% par rapport aux années précédentes. Et la Turquie est devenue le troisième principal exportateur d'armes de petite taille. Les pistolets, les drones notamment. Voilà, on a un acteur turc alors, qui est pas coté. On peut pas y investir en direct. Mm-hmm. Qui s'appelle Baykar, qui représente à peu près 60% des exportations globales de drones. Donc la Turquie s'est vraiment spécialisée sur ce segment-là. C'est sans doute pas un hasard si M. Erdogan a offert aux différents membres de l'OTAN un pistolet six coups gravé au nom des uns et des autres.
Le sommet de l'OTAN a eu lieu donc en Turquie. Recep Tayyip Erdogan était le grand hôte des festivités. Il a offert à chaque leader de l'OTAN
un pistolet. gravé au nom de voilà. Bon,
je pense
c'est un beau cadeau, un cadeau
en or
ou un clin d'œil, mais enfin. Bon.
La différence avec les cadeaux offerts par les dirigeants occidentaux à leur hôte turc était quand même marquante. On a vu Mark Carney, donc du Canada, qui a offert du sirop d'érable, un autre dirigeant occidental qui a offert à Recep Tayyip Erdogan un vélo. Et donc c'est un bon rappel que pour se payer un modèle occidental, je pense en particulier à notre modèle social et aux investissements de défense, il faut du travail, il faut une économie qui tourne. Et aujourd'hui, les Turcs semblent peut-être plus axés sur les points importants que peuvent l'être certains pays occidentaux. Et on voit dernièrement, donc que ce soit en Italie avec Leonardo ou en France avec Thales, qui est-ce qu'ils sont allés chercher pour leurs investissements liés aux drones et pour acquérir de la technologie sur le sujet? C'est des partenariats avec Baker.
Ouais. Ouais. Alors on poursuit nos échanges, messieurs. On est à 11 minutes de la clôture. On avance, on entre dans la dernière ligne droite. Et on est toujours en petite baisse là sur le CAC 40, une séance presque pour rien, moins 0,04%, 8323 points. Lanterne rouge, c'est la suite d'un abaissement d'objectifs de cours. Thales recule d'1,9%. On a aussi Safran dans la défense, on en parlait de la défense qui recule d'1,2%. Et puis dans la tech, on repart à la baisse sur STM qui avait bien progressé hier. Aujourd'hui, STM repère 1,2%. À la hausse, un relèvement de pignon sur ArcelorMittal, le titre gagne 6,5% ce soir. Plus forte hausse du CAC 40 et puis hors CAC, EasyJet qui finalement accepte l'offre d'Apollo. Apollo qui a surenchéri face à Castle Lake et donc finalement EasyJet gagne 14% à 6,71 en ce moment. On parle de toutes ces thématiques avec Kevin Tauzé pour Carmignac et Gabriel Caraboulat pour Neuflis OBC. Juste un petit mot de l'once d'or parce que le premier semestre aura été très compliqué pour l'once d'or quand même. On a appris cette semaine, enfin on a assisté cette semaine au lancement d'une bourse de l'or à Hong Kong. Pour essayer, Hong Kong, les Chinois veulent essayer d'échapper à l'hégémonie, en tout cas réduire leur dépendance à l'hégémonie américaine et britannique sur le marché de l'or en lançant leur propre bourse internationale de l'or. Alors l'or libellé en renminbi en l'occurrence. C'est toujours cette dédollarisation et cette émergence d'un nouveau monde qui se confirme aussi via le marché de l'or, Gabriel.
Une tendance de fond qu'on a vue d'abord sur la dette américaine, alors qui est contrecarrée avec une Fed qui propose maintenant des effets de levier et de nantir la dette américaine détenue pour obtenir des facilités de crédit. Mais la tendance est là, c'est-à-dire donc des réserves de change qui sont de moins en moins investies en dollars, en particulier en Asie. On l'a vu ensuite sur les échanges de matières premières pour le pétrole, à la faveur de ce qui s'est passé d'abord en Russie, en Ukraine, puis en Iran. Et maintenant, c'est l'or, c'est une suite logique dans une tendance qui est une tendance de fond, qui va se poursuivre. Et donc, une menace de l'hégémonie américaine, qui a encore une bonne marge, une bonne avance hein, sur le reste des économies, mais qui est petit à petit une Chine qui lui taille des croupières.
Oui, et utiliser l'or pour comme vecteur d'internationalisation du renminbi, du yuan, puisque dans cette bourse de l'or à Hong Kong, on libelle en renminbi.
Il y a eu des contrats sur les matières premières, notamment énergétiques, libellés en renminbi, principalement à destination des échanges russo-chinois. Je crois que cette dynamique-là d'élargir, on va dire, des actifs de réserve au-delà des grandes devises de réserve, c'est une réalité. Il faut qu'on ait encore au moins une demi-heure, une heure pour en parler, mais je crois pas que la lisibilité ou la faible lisibilité des autorités américaines, qu'elles soient monétaires, budgétaires ou présidentielles, renforce la crédibilité du dollar américain. Et c'est sans doute une lame de fond.
Quels seront les enjeux, alors au-delà des publications des entreprises dont on vient beaucoup de parler, quels seront les enjeux du deuxième semestre sur les marchés? Qu'est-ce que vous allez regarder d'autre à part ceux dont on vient de parler, Kevin?
On le disait un petit peu tout à l'heure, je crois qu'il y a ce point d'interrogation-là, c'est-à-dire, est-ce que Kevin Warsh bluffe ou pas? Est-ce que c'est des mots ou est-ce que ce sera des actes? Est-ce que c'est plutôt Machiavel ou est-ce que c'est plutôt Volcker? Quelque chose comme ça. Donc ça, je crois que c'est la grande interrogation, parce que globalement, je crois qu'il y a très très peu, voire aucune classe d'actifs qui est prête à affronter, on va dire, une politique monétaire américaine beaucoup plus restrictive. Donc ça, je pense que c'est la grande question. Il y en a d'autres, on n'a pas un petit peu parlé du yuan coréen, il y a aussi une dépréciation très forte du japonais, il y a aussi des tensions potentiellement importantes sur les marchés de taux japonais, le yen japonais qui a été une devise d'emprunt très importante pour aller chercher tout ce qu'on appelle stratégie de portage, hein. On vend du yen et puis on va acheter la lire turque, alors peut-être un peu sportif, mais du peso mexicain. Voilà, si on a ces mécanismes de débouclement là, ben c'est quelque chose qui pourra bouger. Et c'est vrai que le dollar yen à 160, c'est des niveaux qui aident beaucoup les entreprises japonaises. Hein, je veux dire, on a un surplus des comptes courants qui est absolument record. On n'a pas vu ça en 30 ans. La faiblesse du yen y est pour beaucoup. Sans doute que ça va commencer peut-être à un moment à énerver un petit peu Monsieur Bessent et le ministre des Finances américain. Donc ça peut être un deuxième. Les élections de mi-mandat, mais je serais ravi d'être contredit. Ah. Pour moi, c'est moins un enjeu parce que j'ai l'impression que les marchés s'y sont préparés. On va avoir ce qu'on appelle un canard boiteux aux États-Unis, donc un président qui n'aura pas la chambre basse du Congrès avec.
Et qui n'aurait aucune des deux chambres ?
Non, le Sénat, je crois qu'il, a priori, il la garde. S'il ne garde pas le Sénat, là, ça pourrait être un peu plus rock'n'roll, parce qu'on aura toutes ces procédures de destitution qui auront plus de chances de passer. Mais
et généralement, quand les deux chambres ne sont pas d'accord, un de nos experts nous disait quand les deux chambres ne sont pas d'accord, c'est plutôt bon pour le consommateur parce que justement le seul point sur lequel elles sont d'accord, c'est l'augmentation des dépenses.
Je suis assez d'accord, c'est-à-dire que en général et on le voit chez nous, hein, on va aussi avoir des échéances électorales. En général, échéances électorales et orthodoxie budgétaire, ça fait pas vraiment bon ménage, hein. Donc je partage un peu
la résorption des déficits et de la dette américaine.
Ce qui rassemble sans doute et démocrates et républicains, c'est que on a le bas de la jambe du cas, donc une grande partie des ménages américains, donc avec les revenus les plus faibles, qui subissent.
Et Pepsi l'a dit hier dans sa publication. Pepsi a expliqué qu'en Amérique du Nord c'était compliqué pour les ménages et il le voyait dans le panier des consommateurs. Effectivement, Pepsi qui avait publié hier et qui a beaucoup souffert, ça donnera peut-être le là d'ailleurs des publications américaines qui vont démarrer dans quelques jours. Ici en France, on va entrer dans la campagne présidentielle aussi. Est-ce qu'on peut imaginer que pendant cette campagne, du fait de la campagne et puis tout simplement du fait de notre contexte, notre 10 ans français passe la barre des 4% prochainement. On a bien monté cette semaine.
Très probable. C'est très probable, d'une part, parce que compte tenu des finances sur le reste de la zone euro, la BCE est peu susceptible d'intervenir spécifiquement sur la France.
Trop isolé dans sa dérive, quoi.
Voilà. Quand on regarde donc du côté des finances publiques et de ce qui va probablement se passer à la fin de l'année, donc au Q4 sur les discussions sur le budget, c'est-à-dire en pratique des discussions assez lunaire, avec des propositions de dépenses dans tous les sens qui seront évidemment pas votées, on repartira finalement pour un budget qui est le budget actuel, avec quelques ajustements à venir en début 2027. Et les quelques mouvements qu'on peut avoir, c'est plutôt des concessions qu'on a pu avoir, comme celle de Le Cornu sur la retraite, et donc qui vont absolument pas dans le sens de la rigueur budgétaire. Donc jusqu'à la présidentielle, il est peu probable qu'on ait un mouvement, changement de tendance sur la dette française.
Les 4%, on risque de les avoir pendant la campagne, ça peut être un déclencheur, la campagne.
Et le problème, c'est que, on est quoi, 3,80, 3,75 au moment où on se parle, c'est déjà une mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'on a ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Alors, je sais que c'est pas la saison, mais c'est quoi l'effet boule de neige ? C'est quand on a, en fait, la charge d'intérêt qui croît plus vite que la croissance potentielle. La croissance potentielle, en termes réels, c'est 1%, on rajoute 2% d'inflation, ça fait 3%. Donc, quand vous avez la charge d'intérêt qui est supérieure à 3%, vous, mécaniquement, en ne faisant rien, le poids de la dette augmente, et on y est déjà.
Oui, on serait curieux si Christine Lagarde quitte prématurément son poste à la BCE, parce qu'elle l'a laissé entendre, clairement. Ouais. Elle voudrait, pourquoi pas, elle n'a pas dit qu'elle le ferait, mais elle, pourquoi pas, envisage de participer à la campagne, pas forcément en étant candidate, mais pour apporter les idées européennes dans cette campagne. Ce serait intéressant d'avoir son point de vue, parce que là, elle devra se lâcher, elle ne serait plus présidente de la BCE, son point de vue réel sur l'état de la France et les solutions.
Ouais, on n'est pas que premier au football, on est aussi premier au niveau de taux d'emprunt sur les maturités 2, 3, 5, 10.
C'est ça, ouais, champion du monde.
Les Anglais sont devant nous, peut-être.
Quand même. Oui. On s'attend peu à des changements, enfin que Christine Lagarde reste ou qu'elle parte.
Ça change rien, Gabriel.
On s'attend pas à des changements fondamentaux dans la politique de la BCE. Ce serait relativement logique compte tenu de son parcours personnel et des prises de parole qu'elle a pu avoir dernièrement. Est-ce qu'elle sera regrettée après ? C'est un autre sujet.
Allez, on poursuit nos échanges.